おかきおかき、おかき。Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais, présentée ce soir par Guy-Roger Nyantala.
Bonsoir. Rencontre de Nairobi entre la RDC et le Rwanda. La RDC s'engage à désarmer les combattants Hutu-Rwandais. Engagement pris vendredi dernier, c'était à l'issue d'une réunion qui a regroupé 11 pays de la région des Grands Lacs. Au menu de leur discussion, la situation sécuritaire dans la sous-région. Cette réunion a été facilitée par les Nations Unies en présence des représentants des États-Unis et de l'Union Européenne. Comment le gouvernement congolais pense-t-il s'y prendre? Quel rôle va jouer Kigali? Quelle chance donner à cette nouvelle initiative pour restaurer la paix dans les deux Kivu? Les auditeurs commencent déjà à réagir. C'est le cas du docteur Daniel Ngai Mbako Sabili depuis KCC en Ouganda, qui pense que la responsabilité de l'échec des accords signés entre Kinshasa et Kigali était imputée au gouvernement congolais suite au manque de volonté politique. Il veut avoir foi en la nouvelle équipe et espère que les Congolais seront présents à ce rendez-vous et vont remplir leur part. De son côté, Peter Oumani de Beni, dans la province du Nord Kivu, cherche à savoir si le Rwanda ne joue-t-il pas à la politique de l'autruche, car dit-il dans cette rencontre, on a comme l'impression que le Rwanda confirme son soutien à Laurent Kunda pour neutraliser les FDLR. Enfin, Crispin Yongo de Kisangani, dans la province orientale, pense que le gouvernement rwandais veut endormir les Congolais et l'auditeur s'interroge sur le nombre d'accords et engagements que ces deux pays ont déjà pris sans être respectés. Nous avons comme invité dans ces studios Jean-Claude Moukeni, Atani Ngabu, sénateur ANP et président de la commission Relations extérieures au Sénat, Jacques Joly, sénateur MLC et président de la commission Défense et Sécurité. Il sera au téléphone et interviendra à partir de Nairobi au Kenya. Et enfin, Labana Lassai, analyste politique, professeur de relations internationales et doyen de la faculté des sciences sociales à l'Université de Kinshasa. Bienvenue à tous dans ce dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Rencontre de Nairobi entre la RDC et le Rwanda. La RDC s'engage à désarmer les combattants Hutu-Rwandais. Comment le gouvernement congolais pense-t-il s'y prendre? Quel rôle va jouer Kigali? La RDC, vous le savez, s'est engagée à élaborer pour début décembre un plan détaillé pour éliminer la menace constituée par les rebelles Hutu-Rwandais basés dans l'est du pays et à lancer d'urgence des opérations militaires contre ce groupe. Je vous invite à suivre Antipas Nyamwisi, ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Il donne le sens de l'engagement pris par la partie congolaise. Antipas Nyamwisi, au micro de Willy Akonda et Sandra Mutombo.
Cet engagement entre dans la droite ligne des préoccupations congolaises de vouloir mettre fin définitivement à toutes les forces négatives qui circulent à l'est du Congo, qu'ils soient congolais, rwandais, ougandais ou autres. Il va nous aider à négocier le virage qui nous reste, celui de mettre fin définitivement à ces zones résiduelles de sécurité.
La partie rwandaise affirme que jusqu'ici, la RDC n'a jamais déployé des officiers dans le cadre du mécanisme de vérification conjointe à la frontière de deux États.
Je pense pas qu'entre nous et le Rwanda, il faille recenser le rendez-vous manqué. Il y a déjà eu des moments où ça convient sur quelque chose, il n'y a que le Rwanda qui manque. C'est pas de ça qu'il s'agit. Au moins maintenant, nous sommes décidés en bilatéral avec Kigali à dire plus jamais ça, nous sommes fatigués de devoir payer le prix des problèmes internes au Rwanda parce qu'on ne le dit pas assez. Les experts intérieurs ne sont pas des Congolais, ils ne sont pas devenus Congolais parce qu'ils ont commis tel ou tel crime chez eux. Je vous informe que le lieutenant-colonel Bouane a été désigné par l'état-major général pour diriger cette équipe. Nous allons aussi, conformément à l'esprit de notre communiqué conjoint de Nairobi, installer un groupe à Goma, à Bukavu, à Gisenyi, à Tchangougou. Ça va être une activité qui va accompagner l'esprit de recherche à tout prix de la solution définitive. Dans un court terme, on ne va pas prolonger indéfiniment tout ce processus. Il faut que d'ici quelques mois, ça soit terminé.
Jean-Claude Moukeni, Atani Ngabu, je rappelle que vous êtes sénateur AMP, président de la commission Relations extérieures au Sénat. La question que je vais vous poser, en quoi le nouvel engagement pris par la RDC diffère d'autres accords et d'autres engagements signés entre les deux pays?
Monsieur le journaliste, avant toute chose, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. C'est une première depuis que nous sommes installés au Sénat, que notre chambre et que la démocratie congolaise est vraiment en route. Je ne peux que saluer cette initiative tant louable, parce que, comme vous le remarquez, je préside la commission de relations extérieures, dont nous avons dans nos attributions le contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne la signature des accords, des traités et autres engagements internationaux. Je reviendrai à votre question en ce qui concerne l'innovation qu'il pourrait y avoir entre ces accords tripartites qui sont signés à ce jour entre la RDC et le Rwanda. Ces accords, le seul changement que je pourrais qualifier ici, c'est que enfin, nous avons de la part du Rwanda un engagement ferme de pouvoir prendre des mesures nécessaires pour sécuriser son frontière et empêcher les membres de troupes de continuer à semer la terreur dans nos villes et dans nos villages. Du côté congolais, vous n'avez qu'à remarquer, monsieur le journaliste, que notre gouvernement, par le biais de notre ministre des Affaires étrangères, sous l'impulsion de notre président de la République, ne faiblit pas dans ses efforts de pacification de cette région à l'est. Comme nous avions toujours dit, notre pays a subi une guerre d'agression. Nous avions été agressés par nos pays frères et amis. Et tout ce que la population congolaise et le gouvernement congolais à ce jour exigent, c'est que ces groupes armés qui assurent en quelque sorte, qui maintiennent la sécurité dans cette région, dans cette partie du territoire, et qui en quelque sorte créent un problème de relance aussi bien économique que social dans notre pays, souhaiterait à ce que ça s'arrête. C'est pour ça que notre président de la République a pris son bâton pour négocier avec nos frères.
Merci. Honorable Jean-Claude Mokeni, je vais essayer de repréciser un peu ma question. En quoi, selon vous, ce nouvel engagement pris par la RDC diffère d'autres accords, d'autres engagements, d'autres tentatives d'aller vers une solution et entre autres signer des accords entre les deux pays voisins?
Bon, écoutez, monsieur le journaliste, vous ne voulez pas que je puisse terminer ma petite présentation.
Allez-y.
Je pense qu'il est quand même important à nos auditeurs de comprendre ce qui nous a amené à signer ces accords, parce que nous avons déjà signé plusieurs accords avec le Rwanda et les autres belligérants. Mais le problème, c'est l'applicabilité de ces accords. Les bonnes intentions sont là, sur papier, mais est-ce que ça se traduit réellement? C'est cela. Je pense que ça sera ce qui changera. Je crois que sur le plan tout à fait littéraire, il n'y a rien d'innovant dans ces accords, puisque chaque partie reconnaît sa part de responsabilité et s'engage d'un côté à désarmer les Interahamwe, donc les FTLR, et de l'autre côté, on s'engage à ne plus soutenir des groupes armés de l'autre côté. Donc, il n'y a rien de nouveau.
Merci. Sénateur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes vice-président de la Commission Défense et Sécurité au Sénat. Vous intervenez à partir de Nairobi au Kenya. Avez-vous la même lecture que le sénateur Jean-Claude Mokeni qui lui dit que, qui lui pense qu'il n'y a pas d'innovation par rapport à ce nouvel engagement? Sénateur Jacques Joly, vous nous écoutez? Je pense qu'on l'a perdu. Je m'en vais droit à vous, professeur Labane Alassaï, analyste politique et professeur des relations internationales à l'université de Kinshasa. Quelle réaction faites-vous par rapport à ce que venait d'avancer Jean-Claude Mokeni, sénateur AMP, qui dit que par rapport à ces nouveaux engagements de la RDC et également du Rwanda, il n'y a pas d'innovation?
Ok, merci, messieurs les journalistes. Je dirais d'abord que dans notre pays, on est habitué à faire l'amalgame sur certains concepts qui doivent être clairs. Lorsqu'on parle des accords, il y a les communiqués. Je peux vous dire, on doit faire une grande différence ici. Parce que dans le cas des relations entre le Rwanda et notre pays, il y a eu effectivement des accords qu'on a signés, qu'on a vu l'application, même si c'était un peu difficile. Je vais citer l'exemple de l'accord de Pretoria qui mettait fin des troupes rwandaises sur notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo, à ma connaissance, depuis les réunions de la Tripartite Plus, ce sont des réunions de concertation qui n'ont jamais abouti à un accord formel. Ici, le ministre d'État a parlé des négociations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, assistées par des tierces personnes. Vous avez dit l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, et il y a même les représentants, je crois, de... disons, des Nations Unies qui étaient sur place là-bas. Mais cette réunion, cette concertation, s'est clôturée par un communiqué conjoint. C'est différent d'un communiqué conjoint d'un accord.
Expliquez un peu pour les auditeurs.
Ok, pour les auditeurs, lorsqu'il s'agit d'un accord, suivant la constitution de notre pays, c'est le Parlement qui a l'obligation d'autoriser l'application de cet accord. Nous avons l'article 124 de la Constitution. Il relève à la compétence du Parlement, n'est-ce pas, de voir l'applicabilité de cet accord en regardant les dispositions de notre Constitution. Tandis que un communiqué conjoint vous fait l'état des lieux, n'est-ce pas, des relations qui existent entre les deux États. En principe, cette réunion devrait se passer dans le cadre d'une commission mixte, où on devrait évaluer l'état des relations entre les deux pays. Un communiqué conjoint, n'est-ce pas, c'est-il, disons, exprime une volonté. Mais quand nous mélangeons l'accord, effectivement, dans ce communiqué conjoint, nous remarquons que la République rwandaise prend un engagement, la République démocratique du Congo prend un engagement, mais cet engagement sera formel au moment où les deux États vont signer l'accord. Et cet accord va intervenir lorsque la République démocratique du Congo va présenter le plan de désengagement, de désarmement si vous voulez, de désengagement. Dès que les deux pays seront d'accord, parce qu'on a dit le 1er décembre, que la République démocratique du Congo doit présenter ces plans-là. Et si c'est le problème militaire, ce sont des militaires et c'est là où la République démocratique du Congo va essayer de contribuer effectivement dans cette recherche de la solution définitive au problème à l'est du pays.
On me signale là que nous avons retrouvé le sénateur Jacques Joly. Je rappelle qu'il est sénateur MLC et vice-président de la commission sécurité, défense et sécurité au Sénat. Sénateur, nous sommes en train justement d'aborder la question sur les engagements pris par la RDC et le Rwanda sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Il y a votre collègue Jean-Claude Mokeni, sénateur AMP et président de la commission relations extérieures, qui lui pensait que ce nouvel engagement n'a rien d'innovant par rapport aux autres accords et engagements signés antérieurement. Il y a le professeur Laban Alassaï, qui est analyste politique et professeur de relations internationales, doyen de la faculté de sciences sociales à l'université de Kinshasa. Et il pense que on ne peut pas tout à fait considérer ce nouvel engagement et ce nouvel engagement doit avoir du poids si la RDC et le Rwanda arrivaient à signer des accords et cela passe, selon lui, par le Parlement. Comment réagissez-vous à tous ces points de vue de nos invités?
Je suis d'abord d'accord avec mon collègue Mokini. Je crois que malgré qu'il soit de la grande famille AMP, il fait là une analyse très objective. En termes de problématique, sincèrement, qu'est-ce que cet accord ajoute du point de vue du Congo? Ça fait plus de 5 ans que nous prenons des engagements. Moi-même, j'ai participé à plusieurs reprises à des rencontres dans le cadre de la tripartite, dans le cadre de la bilatérale, dans le cadre du schéma de pacte de Blanlac. La République démocratique du Congo s'est toujours engagée à faire partie les FDLR. Et nous n'avons jamais réussi à le faire, donc il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui est dangereux, c'est que maintenant, le Rwanda est parvenu à faire ce qu'on peut appeler le lien, donc le lien entre Kunda, qui ne reconnaît même pas le soutien, et les FDLR. Donc le discours de notre compatriote, comme il s'est dit, Kunda, correspond maintenant à l'agenda politique et diplomatique du Rwanda, et nous lui disons oui, ce sont des génocidaires, oui, nous allons faire la démarche internationale pour les chasser, alors que c'est un problème sûrement intérieur au Congo, parce que nous devons être capables, n'est-ce pas, de contrôler notre espace, et qu'il ne doit pas y avoir des groupes armés, que ce s'appelle étrangers ou nationaux chez nous, mais aujourd'hui, avec cet accord, nous disons oui, Kunda a la raison d'exister, oui, nous avons la raison d'appuyer Kunda, oui, nous allons prendre l'engagement, est-ce que nous en avons le moyen? Alors que nous devons d'abord démontrer au Rwanda que oui, nous avons notre responsabilité, mais le Rwanda a sa responsabilité en termes d'acceptation de retour de ses compatriotes. Mais aujourd'hui, le Rwanda saisit cette opportunité des FDLR pour créer, n'est-ce pas, une instrumentalisation de la confusion. Et nous, malheureusement, par la sorte des visions et des capacités d'analyse prospective, nous adhérons au chemin du Rwanda. Donc voilà, en fait, à mon avis, le fait qu'il y ait négativement une innovation, mais en termes de problématiques, il n'y a pas d'avancée pour la République démocratique du Congo.
Je retiens que le sénateur Jacques Joly dit qu'il n'y a pas d'avancée. La RDC a en plus avancé dans le sens négatif. Ça, c'est votre point de vue. Donc, rencontre de Nairobi entre la RDC et le Rwanda. La RDC s'engage à désarmer les combattants hutu-rwandais. Quelle chance donner à cette nouvelle initiative pour restaurer la paix dans le Deux Kivu? Réponse à ces questions dans la deuxième partie de ce dialogue entre Congolais. Je vous rappelle que nous recevons Jacques Mokeni, sénateur AMP. Jean-Claude Mokeni, je précise, Atani Gabou, sénateur AMP et président de la commission Relations extérieures au Sénat. Jacques Joly, sénateur MLC et vice-président de la commission Défense et Sécurité, toujours au Sénat. Laban Alassaï, analyste politique, professeur de relations internationales et doyen de la faculté des sciences sociales à l'université de Kinshasa. Pour participer à cette émission, vous pouvez réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Le Rwanda accepte de n'offrir aucun soutien à Laurent Kunda ou autre groupe armé installé en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint sanctionnant la réunion tenue à Nairobi par les délégations des deux pays. Kigali se dit satisfait de l'engagement de Kinshasa de résoudre une fois pour toutes la question des FDLR. On écoute Charles Morigandé, le ministre rwandais des Affaires étrangères, au téléphone de Jeff Ngoy.
Nous accueillons avec satisfaction la volonté affichée par le gouvernement de la RDC à tout mettre à l'œuvre pour que le problème des experts interarmes soit complètement résolu. Nous sommes convaincus qu'il y a réellement une nouvelle volonté de la part de la RDC d'en découdre avec les réserves DLR.
Monsieur le ministre, dans l'accord de Nairobi, votre gouvernement s'engage d'empêcher l'entrée ou la sortie de son territoire des membres de tout groupe armé, en particulier de Laurent Kunda, et d'empêcher que toute forme de soutien ou d'aide soit fournie à aucun groupe armé. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour y aboutir?
En début du mois de septembre, j'étais à Kinshasa et on s'était mis d'accord qu'on allait redynamiser le mécanisme de vérification conjointe. Dans les 48 heures qui ont suivi la réunion, le Rwanda avait déployé les officiers qui devaient servir dans ce mécanisme. Au moment où je vous parle, la RDC n'a pas encore déployé ses officiers. Je crois que la vérification conjointe est une des mesures qui va permettre à ce que l'on puisse vérifier ces allégations, mais aussi faire en sorte que, quand bien même il y aurait des gens qui seraient tentés à traverser la frontière, quand ils sauront que cette frontière est conjointement gardée, ils ne vont pas se hasarder.
Jean-Claude Mokeni à Taningabu, sénateur MP, président de la commission relations extérieures au Sénat. Pourquoi les précédentes initiatives pour amener la paix dans cette partie de la RDC n'ont pas réussi, toutes ces initiatives-là?
Monsieur le journaliste, je vous remercie une fois de plus de m'avoir repassé la parole. Je pense que vous avez remarqué que lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos frontières, nous sommes tous unanimes. Je pense que ces accords qui ont été signés, ces différents engagements pour mettre fin à cette insécurité à l'Est n'ont pas abouti à ce jour parce que la rébellion ne peut pas continuer à œuvrer sans une base arrière, sans financement. Or, c'est ça le premier problème que nous rencontrons dans cette région. Quand je disais qu'il n'y a rien de nouveau, c'est que le gouvernement congolais et le peuple congolais, depuis 13 ans, veut mettre fin à la sécurité dans l'Est, mais nous n'y arrivons pas. Pourquoi? C'est parce que les belligérants sont soutenus par nos voisins, étaient soutenus par nos voisins. Il y a eu la guerre d'agression, n'oubliez pas, qui a été reconnue par des résolutions des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, sous l'impulsion des États-Unis eux-mêmes, on a été amené, a bien dit notre éminent doyen professeur, que cet accord a abouti sur un communiqué. Donc maintenant, voyons les intentions réelles de parti d'appliquer. Parce que j'ai entendu le ministre Charles Moridabé qui disait qu'il y a une nouvelle volonté de la RDC d'en découdre avec le FDLR. Mais la RDC a toujours eu envie d'en découdre avec la FDLR. Mais il ne faudrait pas que pendant que la RDC veut éliminer le problème de la FDLR, de l'autre côté, on continue à attiser le feu, à jouer en même temps aux pompiers et aux pyromanes.
Ça, c'est vous qui le dites.
Tout à fait, ça n'engage que moi dans l'analyse de la situation, parce que actuellement, nous voyons que le monsieur Kunda, je qualifie monsieur Kunda, puisque il a été déchu de son grade. Alors, ce monsieur continue quand même à assurer une certaine résistance. Mais comment? Avec quels moyens? Qui est en train de le soutenir? C'est ça la question. Alors, ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous aussi. Je pense que le problème qui est ici palpable, c'est que le gouvernement congolais a décidé d'entamer des dialogues ouverts avec les différents partis qui sont susceptibles de soutenir les rébellions dans notre pays. Et ces partis ont accepté de parler pour trouver une solution. Et c'est ça l'innovation dans le cas d'espèce.
Merci Jean-Claude Mokeni. Je rappelle que vous êtes sénateur AMP et président de la commission relations extérieures au Sénat. Jacques Joly, sénateur MLC et vice-président de la commission défense et sécurité au Sénat. Pourquoi, je vous repose la même question, pourquoi les précédentes initiatives qui devaient amener la paix dans cette partie de la RDC, et il y a eu des accords, des engagements signés entre les deux pays, pourquoi ces engagements n'ont pas réussi au début?
Moi, je crois que nous sommes en face de deux acteurs. Un acteur qui s'appelle le Rwanda, qui a sa vision, peut-être négative ou positive, mais qui sait ce qu'il veut. Le Rwanda est engagé dans un processus de refondation de son pays, et dans ce chemin pour ce pays qui est à 80% agricole, il compte, n'est-ce pas, sur l'insécurité qui se développe à l'Est, qui l'attise de l'amalant pour, n'est-ce pas, développer son économie. Par contre, nous avons en face un acteur qui s'appelle le Congo, qui est incapable, du moins le gouvernement, de dégager une vision sur la gestion des problèmes de sécurité d'abord à l'intérieur. Il y a le problème Kunda, il y a le problème SFDC, il y a le problème Maïmaï. Comment le gouvernement n'est pas capable de faire une offre d'abord nationale pour vider toutes ses ministres, toutes ses forces armées, le gouvernement n'en a pas. C'est ce plan militaire et le plan politique pour l'espace sécuriser le Kivu. Deuxièmement, au niveau régional, j'ai suivi le ministre Moussa, qui disait, on ne dit pas assez que finalement c'est un problème. Il faut le dire, le gouvernement congolais, en termes diplomatiques, est incapable d'articuler une démarche pour mettre le Rwanda devant ses responsabilités. Mais le ministre nous regarde à l'aise de dire, voilà, nous attendons que le Congolais fasse dans un mois. Il sait très bien que les Congolais ne seront rien parce que, un, nous n'avons pas les moyens, deux, nous n'avons pas la volonté. Si le terrain, le maïmage, si on y avec le Sénégal, le Sénégal travaille parfois ou bénéficie de la complicité de ce gouvernement de FADC. Donc, le Rwanda est très à l'aise. Parce que, ce qu'on ne dit pas, c'est que le Rwanda fabrique même des espèces. Je viens du Burundi. Le Burundi avait des réclamations contre nous à ce qui concerne l'SPD et le SNBD. Depuis qu'ils ont signé le rapport, automatiquement sur les 4000 de l'SPD, ils sont rentrés. Donc le jour où le Rwanda devrait avoir une stratégie pour accepter l'SPD, que la communauté internationale et le Congo pourront nous contraindre à accepter ses compatriotes, et bien ce jour-là, ce problème se terminera. Mais le Rwanda n'a aucun intérêt à nous aider. Au contraire, à créer la confusion, à créer le combat, et nous comprenons dans une certaine incapacité à développer une démarche cohérente et diplomatique et stratégique. Voilà la proposition. C'est pourquoi rien ne se fait et ça arrive le Rwanda depuis que le Rwanda dans cette situation.
Sénateur Joly, dans le communiqué conjoint signé entre la RDC et le Rwanda, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à préparer pour le 1er décembre 2007 un plan détaillé pour désarmer les ex-farines Teramo et éliminer la menace qu'elles constituent. N'est-ce pas là des points justement que les désengagements concrets que la RDC prend pour justement régler cette question?
Mais je peux bien vous croire, mon cher ami, mais ça fait plus de j'ai des affaires étrangères, j'ai assisté à la signature de plusieurs accords, et nous prenons des engagements. Nous disons, à 2004, le 14 octobre, nous avons dit, donnez-nous une année. Nous avons demandé 6 mois, la première de nous a donné 12 mois. Non, nous avons le devoir de faire partie de ces gens-là. Mais ces devoirs-là ne tombent pas simplement à la République démocratique du Congo. Ces devoirs-là, quand on lit les pactes que nous avons signés avec le Rwanda, dans le cadre de pacte sur la sécurité et la stabilité, on dit que le Congo et tous les pays de la région doivent coopérer et agir conjointement pour désarmer et démobiliser. Le Rwanda n'accepte aucune intervention de la communauté internationale pour qu'on puisse ne plus qu'avoir un tableau sur les espèces qui rentrent. Il y en avait 13 000. 6 000 sont rentrés. 7 000 posent un certain nombre de conditions politiques
et même humanitaire pour savoir nous allons où. Le Rwanda refuse que la République démocratique du Congo soit capable d'articuler une démarche responsable et politique pour dire non, j'engage une diplomatie pour faire comprendre.
Merci.
À Washington, à Paris, qu'il faut que le Rwanda a sa part de responsabilité. Tout comme d'ailleurs nous avons notre part de responsabilité, parce que nos gestionnaires bénéficient de certaines complicités à l'aide et pour faire. Il faut aller jusqu'au bout.
Merci, sénateur Joly. Prof Laban Alassaï, quels sont la RDC dispose-t-elle des moyens pour justement mettre en pratique ce nouvel engagement qu'il a pris avec le Rwanda pour combattre les combattants hutu-rwandais et le rapatrier ou bien le neutraliser comme c'est dit dans le communiqué?
Ok, je dois d'abord signaler ici le problème à l'est de notre pays est instrumentalisé par les acteurs invisibles que l'honorable a parlé tout à l'heure, qui tirent des ficelles de gauche à droite. Et on dirait comme si cette situation est devenue un fonds de commerce pour certaines personnes, pour certaines puissances aussi. Revenons à la question, que doit faire la RDC pour mettre fin à cette situation des ex-phares à l'est du pays? Je crois que le tout dépendra du plan de désengagement que la République démocratique va présenter. Et ce plan de désengagement doit être accompagné avec les modalités claires d'application. Si cela est bien élaboré, et ça c'est l'affaire des militaires, pour le programme de désengagement.
Concrètement, on peut faire quoi?
Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, il faut donner la situation réelle. Mais vous savez, il y a un peu de confusion ici. Quand on parle de désengagement, il faut savoir là où se trouvent les troupes des autres partis. Mais ici, c'est difficile. Et on reconnaît que ces gens-là existent dans notre pays, mais on ne sait pas les localiser, à quel endroit ils sont, et comment on doit faire le désengagement. Comment on doit préparer le plan, n'est-ce pas, d'application, les modalités, je voulais dire. C'est la difficulté qu'on peut rencontrer. Mais il appartient aux militaires. Parce que ce ne sont pas les politiques qui vont faire le plan de désengagement. Ce sont des militaires, n'est-ce pas, mais qui seront appuyés par les politiques, n'est-ce pas. Et ici, c'est là où le rôle que va jouer le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas. Parce que lorsque les militaires préparent un plan, un programme, le plan de désengagement accompagné de modalités d'application, c'est la politique maintenant qui va appliquer. C'est la diplomatie qui va agir. Mais je voudrais revenir un peu ici. Nous ne pouvons pas lancer la pierre uniquement au gouvernement. L'honorable, il est président de la commission extérieure. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent pour interpeller les ministres des Affaires étrangères? Vous êtes allé négocier, explique-nous au Parlement quel est le plan que vous avez, quelles sont les stratégies que vous avez arrêtées pour mettre fin à cette situation. Voilà, ça appartient aussi à la Commission des relations extérieures du Sénat et du Parlement. Merci. Ils doivent agir dans ce sens-là.
Merci, professeur. Oui, professeur, vous avez suivi, honorable Jean-Claude Mokeni, à Tangamo, sénateur, oui, merci. Merci beaucoup. Sénateur AMP, vous avez suivi le professeur Laban Alassaï. Il est facile de lancer des pierres au gouvernement, mais vous, à votre niveau, le gouvernement prend des engagements et vous vous dites que il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que concrètement, vous avez suivi la question du professeur, vous avez fait pour justement donner des pistes de solutions à ce gouvernement pour arriver à trouver une solution pour la paix finalement dans cette partie de la RDC?
Effectivement, je vais emboîter le pas à ce que a souligné le professeur Laban Alassaï en soulignant le rôle de contrôle du Parlement dans les actions gouvernementales. Mais par ailleurs, je me permets quand même de rappeler au professeur le principe cher à la démocratie qui est la séparation de pouvoir, le législatif,
le judiciaire et l'exécutif. Donc ici, dans le cas d'espèce, le gouvernement a le droit de signer des accords, des traités, et après, s'il veut que ça puisse engager le pays, ces accords puissent engager le pays, je dis bien engager les pays, à ce moment-là, il nous le transmet.
Excusez, professeur, donnez la parole à Jean-Claude Mokeni qu'il continue.
Actuellement, je trouve un peu prématuré que je puisse déjà interpeller mon ministre qui, par l'action du chef de l'État et de lui-même, n'ont pas ménagé un seul effort pour pouvoir arriver à reparler avec nos amis rwandais. D'ailleurs, on a même reçu le premier ministre rwandais ici en République démocratique du Congo. Personne n'avait cru que ça allait arriver cette année. J'ai ici devant mes yeux un communiqué conjoint, comme disait le professeur. Quand je vous disais rien n'a changé, en date du 7 septembre, en Gourdoto, on a encore signé un communiqué conjoint. Et on a fait les mêmes chapelets de recommandations. Nous, ce que nous souhaitons, c'est du concret.
Merci. Merci Jean-Claude Mokeni à Taningabu. Vous êtes sénateur AMP et président de la commission relations extérieures. Il est 19h49 dans ces studios, même heure à Kinzambwete dans le Bas-Congo. C'est l'heure de recueillir les opinions des auditeurs avec Anselmo Sissi Mumbere.
Gisèle Nabito d'Abidji, Bukavu, recevez-vous. Demande que notre gouvernement cesse de nous distraire. Les femmes sont violées tous les jours par les FDLR à Walungu, Kabare, Mwenga, Bukavu. Pourquoi doit-il négocier avec le Rwanda pour nous sécuriser? Il dit qu'il existe plusieurs accords avec le Rwanda dans ce sens. Rien n'a été fait par la RDC. Musongea Mwanamolo pense que Kigali pourra se servir de cet accord à sa guise chaque fois que le besoin se fait sentir. La RDC vient de s'attacher la corde au cou en s'engageant à désarmer les FDLR. Ndouzi Gabi de Matadi au Bas-Congo pense que le gouvernement doit cesser de nous distraire avec des accords jamais accomplis. Pour sa part, Mbola de Bandaka soutient que le vrai problème c'est d'abord Laurent Kunda, lui qui continue à semer la mort parmi notre peuple et après viendra le tour des FDLR qu'on cesse de nous distraire. Jean-Marie Kambale de Boutembo, enfin au nord Kivu, dit que pendant que notre gouvernement méconnaissait l'existence de l'accord de Kigali, le communiqué de presse de la rencontre de Nairobi fait allusion au dit accord. Jusqu'à quand mentira-t-on les Congolais?
Merci, Anselme Sissi Mumbere. Prof, là-bas, rapidement, je vous avais vu hocher la tête pour réagir par rapport aux arguments de Jean-Claude Mokeni. Un petit mot que...
Oui, je voulais dire tout simplement, l'honorable président de la commission extérieure ne doit pas attendre lorsque l'intérêt national du pays est engagé, à l'est du pays. Je crois, et il connaît mieux que moi, et il y a des procédures d'urgence. Il ne faut pas attendre que la population soit informée à travers nos élus de la situation qui se passe à l'est. Mais entre nous, quand on fait le bilan, vous allez voir tous ces accords, quand ils reviennent, on ne donne pas l'information. L'information n'est pas donnée et nous sommes surpris à travers les journaux et chacun exprime son sentiment de ce qu'il comprend, et etc. Mais nous avons la voie officielle autorisée pour nous informer de toutes ces situations.
Merci, merci professeur. Jacques Joly, sénateur MLC, vice-président de la commission défense et sécurité. Il y a un auditeur qui donne son point de vue ici, il s'appelle Gisèle Nabingi, l'appel de Bukavu dans le sud Kivu. Il dit ceci, que notre gouvernement cesse de nous distraire. Les femmes sont violées tous les jours par les FDLR à Walungu, Kabare, Mwenga, Bukavu, etc. Pourquoi doit-il négocier avec le Rwanda pour nous sécuriser? Il existe plusieurs accords avec le Rwanda dans ce sens et rien n'a été fait par la RDC. Nous pensons, ajoute-t-il, que nous devons finalement nous prendre en charge et ignorer tout simplement Kinshasa. Est-ce que vous êtes de cet avis honorable Jacques Joly?
Malheureusement, oui. J'ai l'impression que ce gouvernement, sur cette question comme sur d'autres, ne semble pas prendre la mesure exacte de la situation. C'est vraiment une distraction, mais une distraction qui, comme dit l'auditeur, coûte très cher à notre population. Il y a plus ou moins 700 000 personnes déplacées. Il y a des femmes qui sont violées, non seulement par le Rakunda, par le Mekpeme, mais normalement et les autres groupes. Et le gouvernement ne parvient pas à dégager, comme je l'ai dit, une offre globale. Négocier avec le Rwanda,
Non, tout ça négocier, c'est-à-dire qu'il faudra que vous, de la plus haute autorité du pays, nous prenions le courage de dire ouvertement, de dire au Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda veut. Et asseoir éventuellement des relations diplomatiques ou des relations directes, et non pas des accords similaires qui reconnaissent comme dit le père des accords qu'on a signés, mais ouvertement. Le Rwanda veut se développer, le Rwanda a besoin du Congo, a besoin de nos richesses, mais c'est pas qu'une intégration transparente, et non vicieuse, et non malheureuse. C'est un devoir des gouvernements de sécuriser la population. Donc moi je crois que les devoirs sont à trois simples. Premier simple, un travail politique interne que vous voulez pour ne pas vider tout le conflit. Politique et militaire. Au niveau régional, un discours clair pour donner les responsabilités de chacun. On ne peut plus recourir intentionnellement au Congo pour qu'il coupe. Il y a beaucoup d'enjeux, de l'enjeu économique, de l'enjeu touristique, de l'enjeu stratégique. Donc, au niveau régional et au niveau international, nous devons avoir un discours clair, une démarche claire et même une démarche tamponnée de connaissance qu'on a signé des accords. Et nous ne devons rien reprocher à ce Parlement. Au niveau du Sénat, le collègue de Kouroda, il a mis en place une commission qui a mis chacun de notre responsabilité. Mais lorsque le gouvernement signe des accords, on ne nous dit pas. Après la constitution, il se pose un problème réel de place. Et je crois que de la capacité de ce gouvernement à nous mettre en sécurité à ce niveau de paix.
Merci Jacques Joly. Je rappelle que vous êtes sénateur MLC et vice-président de la commission Défense et Sécurité. Vous intervenez à partir de Nairobi au Kenya. Jean-Claude Moukeni, il y a un auditeur, il s'appelle Kasereka, il est de Bukavu, dans le sud Kivu. Lui pense que le gouvernement est tombé dans le piège que lui a tendu le Rwanda, et vous également, vous êtes dans les institutions, vous venez de signer des engagements. Comment vous réagissez? Vous êtes dans le piège de Kigali, comme le dit cet auditeur?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je vais commencer par répondre d'abord au professeur Labana Lassai, qui a tendu là une perche en disant que il faudrait que le Parlement puisse déclencher une procédure d'urgence. Je lui rappellerai qu'on a des procédures. Nous ne pouvons pas déclencher une procédure d'urgence alors que nous avons amené les partis à se parler. Hein, nous devons d'abord laisser les partis se parler. Je rappelle quand même que nous avions, nous, Sénat, diligenté une commission d'enquête à l'Est, et que pour la première fois, il y a eu des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Et je vais aussi répondre à la première intervenante de Kivu à l'instant.
Je suis concis parce que nous tendons là vers la fin de l'élection.
Je suis très concis. Il y a la sénatrice Goya qui a fait une motion silencieuse en ce qui concerne la violence faite aux femmes par les femmes à l'Est. Et je reviens à M. Kasereka en lui disant non, nous ne tombons pas dans le piège. Avant de pouvoir trouver des solutions, nous devons savoir nous parler, nous regarder en face. Nous sommes des frères à l'Est. Moi, je suis de Kisangani, je suis de la province orientale, je suis du Bazoulé. Nous avions toujours vécu avec nos amis rwandais jusqu'au jour où ils sont venus se battre chez nous, où notre ville a été décrétée une calamité. Donc, arrêtons de mettre la charrue devant les bœufs. Recommençons les dialogues et je pense que c'est la meilleure façon d'en terminer avec les différentes rébellions dans cette partie du pays.
Prof Labana, il y a un autre auditeur, il est de Mbandaka, lui soutient que le vrai problème c'est d'abord Laurent Kunda, lui qui continue à s'aimer la mort au milieu de notre peuple et après viendra le tour de FDLR. Qu'en pensez-vous?
Oui, il peut avoir raison parce que nous avons signé des accords qui ont mis fin à la guerre dans notre pays. Effectivement, Laurent Kunda devient un perturbateur de la paix dans notre pays. Il faut d'abord résoudre ce problème de Laurent Kunda. Il y a d'autres partenaires qui considèrent le problème de Laurent Kunda comme étant un problème interne à la RDC. Mais Laurent Kunda a des acteurs invisibles qui sont en train de nuire notre pays. Moi, je crois qu'il est nécessaire que les autorités de notre pays prennent cette situation de Kunda en main pour en finir pour toujours. Et nous encourageons la démarche du président de la République. Lorsqu'il est parti au Nord Kivu, il est resté dans cette partie pour essayer de palper la situation réelle. Et je crois que cette action doit continuer pour mettre fin à cela.
Rapidement, Jacques Joly, sénateur MLC, il y a Moussongia Mwanando, il n'écrit pas là où il nous appelle, il n'a pas signalé. Il pose la question, pensons-nous que Kigali pourra se servir de cet accord comme il peut agiter chaque fois le besoin de se faire sentir? La RDC vient de s'attacher à l'accord de coup en s'engageant à désarmer les FDLR. Rapidement, votre réaction.
Mais je crois que cet auditeur rejoint ce que je voulais dire au départ. En signant cet accord, nous avons créé intentionnellement un lien entre Kunda et FDLR. C'est-à-dire, nous avons fait prévaloir la thèse rwandaise plutôt que la thèse congolaise, et c'est tout simplement dommage en termes de capacité d'analyse et de projection et d'action.
Merci Jacques Joly, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Nadine Foula était à la réalisation, Jean-Noël Mokondo était à la technique. Merci à vous chers auditeurs, restez branchés sur la fréquence de la paix.
Voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocaliphonique et puis elle sera rediffusée demain matin à partir de 4h45 sur de Kinshasa.